DW. Économie et développement.
Vous savez que certains pays occidentaux ou européens ont bâti leurs sources de revenus autour du tourisme religieux.
Comme Jérusalem, la Mecque ou le Vatican, le Bénin aussi s'est lancé dans la mise en tourisme de son patrimoine religieux. Le pays s'appuie principalement sur la religion traditionnelle vaudou pour organiser chaque année les Vodou Days, un événement emblématique qui met en lumière le patrimoine culturel et spirituel. Mais comment cet héritage ancestral est-il transformé en un levier de croissance? Quels bénéfices concrets pour les communautés locales et pour l'économie nationale? On en parle dans la première partie. Et puis nous verrons comment la République centrafricaine s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis des pays voisins pour ses échanges commerciaux en misant sur des solutions durables et autonomes. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezodia au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Elle est une forme de voyage qui combine la foi et la découverte culturelle. Le tourisme religieux permet aux individus de visiter des lieux saints ou sacrés, de participer à des événements spirituels ou simplement d'explorer des sites d'importance religieuse. Ce type de tourisme, développé dans plusieurs pays à travers le monde, constitue un pont entre différentes cultures et traditions, facilitant les échanges de valeurs et de coutumes entre individus de divers horizons. Mais le tourisme religieux a aussi un impact significatif sur les communautés locales en offrant divers avantages économiques et sociaux. C'est le cas au Bénin, où le vaudou est devenu bien plus qu'une simple religion. C'est grâce à cette importante initiative du gouvernement dénommée les Vodou Days, qui célèbre autrement les arts, la culture et la spiritualité pour faire du Bénin une destination touristique de premier plan en Afrique et dans le monde. Kapo Maouyon, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, dirige le comité des rites mis en place dans ce cadre.
Il y a certains pays qui ont bâti leurs sources de revenus autour du tourisme religieux. Vous avez l'Arabie Saoudite avec le pèlerinage à la Mecque. Vous avez toutes les places instituées au niveau de l'Italie, Vatican je veux dire. Vous avez même dans les autres pays européens ou occidentaux d'autres places qui sont dédiées au tourisme religieux. Il y a par exemple Lourdes en France et vous voyez que à ce niveau-là, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de touristes qui viennent et qui achètent les objets de piété. Et lorsque vous vous déplacez sur la place, vous consommez ce qui est fait sur ces places-là ou dans le pays ou dans la ville. Et tout ça contribue à réorganiser et à renflouer l'économie de ce pays-là. C'est donc dans cette même perspective. Le vaudou étant en réalité un trésor sur lequel nous sommes assis, le Bénin étant considéré comme le berceau historique du vaudou, il faut l'exploiter pour que cela puisse produire des ressources financières. Il s'agit donc du tourisme religieux autour du vaudou.
Après le succès retentissant d'une première édition de l'initiative en 2024, qui a enregistré plus de 100 000 visiteurs, la cité historique de Ouida a accueilli le 9, 10 et 11 janvier la deuxième édition des Vodou Days, avec des milliers de touristes curieux de découvrir les rites, les danses, les cérémonies et les mystères autour du vaudou. Une curiosité dont les retombées pour le pays sont énormes, comme l'explique William Kodjo, directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture, l'une des structures organisatrices de l'événement.
C'est tout le pays qui en a tiré profit. En premier lieu, on m'a dit les hôteliers. Sur la période, sur un rayon de plus de 60 km, il n'y avait plus de chambres d'hôtel de disponibles. Les habitants même ont accueilli, par le système de mécanisme de Airbnb, les visiteurs qu'ils ont hébergés. Ça a généré des ressources. Des restaurants ont connu une affluence des jours spéciaux. Les agences de location de voitures, elles ont fait de beaux chiffres d'affaires. Les discothèques les soirs étaient bondés, les maquis et les bars, ça refusait du monde. Même les salles de cinéma ont fait leur plein. L'artisanat d'art pour les objets souvenirs. Si vous allez au village artisanal de Cotonou, ils vont vous dire comment ça s'est passé. Les transporteurs, les compagnies aériennes, les compagnies pétrolières qui ont vendu beaucoup de carburant, beaucoup plus que d'habitude. Les librairies même ont vendu des livres. Les centres culturels aussi. Même les médias ont connu des périodes de vaches grasses parce qu'il y a eu beaucoup d'annonceurs qui les ont sollicités pour communiquer. Les compagnies GSM, tous ceux qui sont venus prenaient le SIM. Même les pharmacies ont vu le chiffre d'affaires croître.
Et ce n'est pas tout. Même les autres religions ont tiré parti de ce festival culturel des Vodou Days.
Elles aussi ont vu le niveau de leur quête augmenter parce que beaucoup qui sont venus dans le cadre des Vodou Days ont cherché à aller à la messe dimanche et même les églises en ont tiré profit.
On n'occultera pas le petit commerce local.
Ah oui, c'est surtout eux qui en ont profité, les jeunes hommes qui vendent les noix de coco sur la plage. Mais il y en a un qui a dit qu'à 13h déjà, il avait déjà fait plus de 400 000 francs de chiffre d'affaires. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Même les sachets d'eau qu'on a l'habitude d'acheter à 25 francs, mais à un moment donné de la journée, le jour de la grande cérémonie, et c'était monté jusqu'à 500 francs l'unité parce que les gens avaient besoin de se désaltérer.
Tous ces secteurs que vous énumérez là sont les bénéficiaires directs des retombées économiques de l'initiative. Mais il y en a sans doute aussi qui en ont profité de manière indirecte.
En la matière, on nous dit que l'effet multiplicateur souvent est situé autour de 4, le coefficient. Ça veut dire que pour voir ce que les indirects ont touché, il faut multiplier ce qu'eux, ils ont touché par 4. Et vous allez voir la manne que représentent les Vaudounaises pour l'économie nationale.
DW.
Économie et développement. La seconde partie nous amène en République centrafricaine. Un pays géographiquement enclavé et largement dépendant de ses voisins pour ses échanges commerciaux, mais qui cherche à surmonter cette contrainte en investissant dans les infrastructures routières avec l'appui financier de la Banque mondiale. Cependant, cette initiative ne constitue qu'une première étape et le pays aspire à des solutions plus globales pour son développement. Le reportage de Jean-Fernand Quenant, notre correspondant à Bangui.
Enclavé au cœur du continent, la République centrafricaine s'appuie presque exclusivement sur le réseau routier pour ses importations. Qu'il s'agisse des produits de première nécessité ou des produits stratégiques tels que le carburant, la République centrafricaine dépend du Cameroun pour la quasi-totalité de ses opérations d'importation. Si cette situation profite économiquement aux deux États, elle s'accompagne néanmoins de nombreux défis à relever. L'insécurité constitue l'un des principaux obstacles à cette coopération économique. L'exemple des transporteurs camerounais qui ont bloqué leur opération en décembre suite à l'assassinat de l'un des leurs en Centrafrique illustre bien les tensions qui peuvent dégénérer jusqu'à affecter les relations bilatérales. Bangui, au cœur du marché central, les affaires ont repris leur cours normal. L'espoir renaît suite à la reprise des activités des camionneurs camerounais après plusieurs semaines de paralysie, une situation qui a lourdement impacté les recettes de l'État. Dans la capitale, le soulagement est palpable. Eric Sorongo-Pezumandi, gouverneur de la région de Bazou-Bangui, rappelle que cette région, poumon de l'économie centrafricaine, génère à elle seule 115% des activités économiques du pays.
C'était des conditions intenables pour l'économie centrafricaine dans la mesure où le corridor Bangui-Douala dessert 80% de nos marchandises, à l'import comme à l'export. Cette situation étant décantée, nous devons tirer quand même les leçons.
Sans accès au littoral, la dépendance de la République centrafricaine vis-à-vis des importations routières est mise en lumière par la récente grève des camionneurs camerounais. Les conséquences sont immédiates avec une inflation qui frappe durement le marché de Bangui. Pour Geneviève Benham, commerçante au marché central, cette situation met en péril son activité et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients.
Tout est cher et à ce rythme, on ne peut pas s'en sortir. Le prix des oignons a flambé sensiblement. Voyez-vous, c'est la saison et en cette période, on achète le filet à 50 000 francs CFA. Mais actuellement, on le paye à 120 000 francs. Mais il n'y a pas que ça. La pomme de terre aussi a vu ses prix affectés. Ce qui était à 30 000 francs est acheté à plus de 40 000.
Face à une dépendance économique jugée excessive, les opérateurs économiques appellent à une action gouvernementale décisive. Jean-Louis Yette, secrétaire général des opérateurs économiques du marché central de Bangui, met en avant l'urgence de réformes pour sécuriser l'approvisionnement et soutenir les acteurs locaux.
Tout ce que nous consommons au niveau de la République centrafricaine, ça dépend du Cameroun. Et si c'est bloqué là-bas, ça veut dire que le cordon ombilical de la RCA est bloqué. Nous attendons qu'il y ait négociation au niveau de notre gouvernement pour qu'il y ait une solution favorable afin que la population centrafricaine ne puisse pas subir ce genre de désagréments.
Avec un optimisme prudent, le peuple centrafricain aspire à un avenir où la stabilité nouvellement acquise se traduira par des initiatives concrètes visant à élargir les horizons économiques et sociaux du pays. Face aux attentes croissantes de la population, le ministre de l'économie Richard Phila-Kota promet des réponses concrètes. Il évoque notamment un soutien important de la Banque mondiale et des mesures gouvernementales incluses dans le plan national de développement pour relancer l'économie.
Le projet du corridor 13 qui doit relier notre pays à la mer, mais cette fois-ci en passant par le port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Le financement de la Banque africaine de développement, je crois qu'il y a aussi la Banque mondiale qui a mis aussi la main à la poche dans le cadre de ce projet. Les travaux sont en train de se dérouler et nous osons espérer qu'au plus tard 2026, nous aurons un beau corridor qui va nous amener jusqu'au port de Pointe-Noire et ce serait en quelque sorte un palliatif par rapport au corridor qui nous mène donc à Douala.
En attendant, Eric Songo-Pezumandi garde espoir que le gouvernement mettra en œuvre des stratégies innovantes pour briser la dépendance de l'économie.
Je pense certainement que le gouvernement est en train de penser sérieusement à toutes ces solutions-là.
L'ouverture est essentielle, mais elle comporte de nombreux défis pour Bangui. Il devient impératif pour la ville de capitaliser sur les progrès réalisés et de prendre des mesures pour éviter des situations futures susceptibles de compromettre la stabilité économique. Jean-Fernand Kouena, à Bangui pour la Deutsche Welle.
La Centrafrique qui se bat pour réduire sa dépendance vis-à-vis de ses voisins pour ses échanges commerciaux. Ce reportage de Jean-Fernand Quenon vient mettre un terme à ce numéro d'Économie et Développement. Merci à William Kodjo, directeur général de l'Agence de Développement des Arts et de la Culture du Bénin. Je vous remercie également d'avoir suivi ce magazine. Vous pouvez le réécouter sur notre site www.dw.com/français. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.